Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre motarde en or, Patricia, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bah, Patricia, aujourd'hui tu nous proposes un rendez-vous avec Sylvain Pierron qui est auteur de Enfourche tes rêves.
Oui, mais pas que avec Sylvain, pour... Que du plaisir à parler bouquin moto. Et il y aura donc Sylvain et ensuite, effectivement, il y aura Marc Quadrado pour aussi une BD.
Ouais, tu nous proposes aussi avec Valérie et Edwige de partir en Norvège aujourd'hui.
Voilà, on y va.
Tu vas venir en Norvège, c'est un pays, remarque aujourd'hui, il fait assez frais ici dans la région, donc ça ne va pas nous dépayser.
On va commencer à parler plan voyage, débat 2016.
Plan voyage, déjà,
pour les...
ouais, oui, effectivement. Voilà. Valérie, bonjour.
Bonjour à tous.
Ils sont là dans les studios, voilà. Edwige aussi, bonjour. Voilà.
Bonjour.
Voilà. Nous avons aussi le président de la commission technique régionale Flandre-Artois.
Alors, le représentant du FOLEP qui va donc nous parler toute cette organisation qui permet de voir de super. De super épreuves et aussi voilà. Toute une école de formation.
Voilà, tout ce qui est activité moto en UFOLEP, moto tout terrain, école de conduite, formation également d'adultes.
Et nous avons aussi également le président du motoclub des Étangs, Jérémy.
Voilà. À l'honneur, un club de motocross. Bonjour Jérémy.
Bonjour à tous et meilleurs vœux à tous.
Donc alors, tu vas pouvoir nous parler de du club.
Ouais, j'ai une question à poser à Jérémy. L'année passée, tu as participé à l'Enduropale.
Oui, c'est ça. Hein,
cette année, tu remets ça, non?
Non, pas cette année.
C'est dans 15 jours, là. Hein, de toute façon, c'est la grande fête de la moto dans la région du Nord, Pas-de-Calais.
Non, hein. Il serait un peu tard pour s'y mettre. Et non, c'est pas.
Ou alors, tu n'oses plus parce qu'avec les petits problèmes que tu avais eu l'année passée.
Ouais, on va dire qu'on a eu un petit souci.
Des problèmes de tendeur de chaîne.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça.
Donc, et t'étais présent. J'étais présent, l'ami.
Ouais, c'est mon sauveur, en fait.
Parce que je me bats toujours avec une clé de 10.
Voilà,
là,
ouais.
J'avais toujours la clé de 10 dans ma poche.
Et tu es tombé en panne devant
ouais, on s'est retrouvé là-bas. Quand tu t'es donné rendez-vous tout quai.
Mais tu te rends pas compte de la chance que tu as eue là. Dans un sens, tu n'avais pas de chance, mais d'un autre côté, tu avais plein.
Ouais, non, c'est
un coup de bol, pas possible.
Ouais, là, on peut dire que j'ai eu mon petit coup de chance ce jour-là. Ouais.
Voilà, très bien. Et puis, aux infos clubs, me disait Christine. Bonjour, Christine.
Bonjour à tous.
Et puis, à la technique, forcément, et au programme musical, c'est notre ami Laurent.
Et bonjour à tous.
Wow.
Voilà, au téléphone, nous avons Sylvain Pierron qui est auteur de ce bouquin « Enfourche tes rêves ».
Oui, « Enfourche tes rêves » qui est disponible à la vente globalement depuis la deuxième quinzaine de décembre. Un nouveau livre qui vient enrichir la littérature moutarde. Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'antenne son auteur Sylvain. Sylvain, tu es avec nous ? Rassure-moi.
Allô,
bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors, on t'entend bien là ?
Oui, on t'entend très bien.
Bon, parfait, bonjour.
Bonjour. Enfourche tes rêves, un super beau titre. Est-ce que c'était aussi ton rêve d'écrire un jour un livre sur la moto ?
Écoute, au départ, absolument pas. C'était vraiment pas du tout dans l'idée. J'ai commencé en fait à avoir cette idée à partir du moment où j'ai mis en place un blog pour les copains motards. On s'était réunis autour d'une effigie, en fait, un petit moineau, oui. Un petit moineau, en fait.
Oui, c'était nous qui tuais, en fait. Donc, motard, on peut...
Pardon, excuse-moi.
Donc, j'ai dit, si tu nous qui tuais, tu dis, tu es motard, donc tu es tombé très tôt en motardie,
oui,
comme tu l'écris.
Oui, tout à fait. Ouais, ça remonte, en fait, aux années 80. Donc, bon, j'avais une dizaine d'années à l'époque et on remontait en fait l'autoroute en plein milieu justement du retour des 24 heures du Mans. Donc je me suis retrouvé face entre guillemets à mon destin qui n'était pas du tout, rien n'était prévu. Je suis tombé amoureux. Voilà. Et donc j'ai passé mon permis quelques années plus tard. Et écoute, depuis je roule.
Oui, et depuis tu es passionné, parce que c'est le livre d'une passion. C'est dans la collection de témoignages, hein, ça précise bien ton récit.
Oui, c'est un témoignage à l'origine. Au départ, c'est plus l'histoire de ma vie. Mais je dirais, en fait, je vais pousser plus loin l'idée, c'est que c'est pas uniquement mon histoire, c'est un peu l'histoire de tous les moteurs. Hein. C'est-à-dire que pour beaucoup, en fait, de lecteurs qui ont eu l'occasion de lire mon livre, ça m'a fait super plaisir. Je crois que c'est la plus belle des récompenses. Beaucoup m'ont répondu en me disant mais merde, c'est moi, quoi, en fait. Le fait de lire les pages, en fait, ils se sont reconnus et finalement, en fait, c'est vraiment l'histoire de tout à chacun, finalement.
Oui, et cette histoire personnelle, effectivement, t'amène, du moins, tu nous racontes, hein, tu as participé quand même à beaucoup de choses, beaucoup d'événements, effectivement, où tout motard aussi hein, peut participer. Et cette histoire, elle vient toujours en référence à l'histoire de la moto.
Oui, en fait, si tu veux, au départ, c'est un récit personnel sur lequel ce que je précise en fait dans la quatrième de couverture, dédiaboliser le motard, en fait, en parlant de rassemblements mythiques, en fait, d'histoires, d'anecdotes qui font qu'aujourd'hui la culture motard existe et que beaucoup en fait de personnes, motardes ou pas, ne connaissent pas forcément ou semblent vouloir connaître. Et finalement, j'ai essayé de faire des recherches, les meilleures recherches qui soient, parce que c'est pas forcément très simple au niveau des années 70, c'est beaucoup de bouche à oreille, et il y a très peu d'écrits. Donc en fait, j'ai fait le maximum pour essayer de remonter les meilleures des informations.
Oui, alors effectivement, tu parles de grands événements, tu parles aussi des codes motards.
Oui, les codes moteurs, bien évidemment. En fait, bon, les origines du salut moteur, d'où vient ce salut, pour quelles raisons. Maintenant également, je parle aussi de tout ce qui touche à la fraternité et la solidarité qui existe depuis on va dire les premiers groupes motorisés dans les années 40. Hein. Et de là, en fait, effectivement, je tourne en fait autour de mon histoire par rapport à l'ensemble de ces anecdotes.
Oui, ce qui est important, voilà, les valeurs fondatrices hein, du monde motard, c'est repris et c'est illustré à plein d'occasions. Et tu sembles te présenter vraiment comme un maillon vivant, je dirais, en quelque sorte, entre les anciens. Et ce à quoi tu tiens, hein, qui tu voudrais voir perdurer dans le temps, ces valeurs hein, qui sont partagées.
Oui. Voilà, anciens, oui, effectivement, j'allais dire les anciens. Bien évidemment, je dirais que sans les motards des années 40, 50 et plus tard 60-70, sans cette première génération de moteurs, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est ce que je précise, en fait, hein, c'est grâce notamment à eux que les premiers motoclubs sont nés, les premiers rassemblements mythiques, je dirais la création également de la Fédération française des motards en colère, notamment tous ces éléments d'information, enfin ces éléments, s'ils n'avaient pas existé, s'il n'y avait pas eu cet esprit de rébellion de l'époque, la moto aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. Et enfin, ça me fait sourire lorsque tu me dis en fait les anciens, parce que bon, mine de rien, ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais de la moto, donc je fais partie maintenant également entre guillemets des anciens, même si je veux pas le reconnaître. Et ce que je vois aujourd'hui de la moto, je me dis que les choses évoluent et que c'est pas forcément toujours dans le bon sens. Maintenant, ça reste mon opinion.
Oui, tu te positionnes sur de nombreux sujets. Et si tu veux, on va profiter d'une petite pause musicale, oui, et on se retrouve après et on en parle.
Okay.
À tout de suite.
Till long years, till more to go. One right in jail, gone, let me go, son. Save your prayers, cry no more. They ain't gonna yell none. Could be the way it was, could be the way it was, could be the way it was done. Could be a hard way to go.
Toujours avec Sylvain Pierron, donc au téléphone, pour ce bouquin « Enfourche tes rêves ».
Oui, un très bon livre. Et Sylvain, merci d'être avec nous pour nous en parler. Je dis un très bon livre parce que ça fait la deuxième fois que je lis ton livre. Et plus je lis et plus je l'apprécie. Là, voilà. Au tout début, c'est vrai que au niveau du style, il y avait certaines choses. J'étais peut-être un petit peu trop critique. Je crois qu'il faut se laisser aller un peu comme tu le fais. À apprécier cette liberté de parole.
Oui, en fait, si tu veux, j'ai eu l'occasion également forcément de relire une bonne quinzaine de fois mon manuscrit avant de l'envoyer à l'éditeur. Et effectivement, parfois, je me dis, mais nom d'un chien, mais soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez. Je dirais que je suis picard d'adoption au départ, mais je suis plutôt marseillais dans ma façon d'être. Je parle beaucoup avec les mains, mais j'écris avec la bouche. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, beaucoup trop d'informations, et finalement il a fallu que j'élague, parce que sinon c'était pas un livre de 254 pages, il aurait forcément fait beaucoup plus.
Ouais, voilà. Je crois que tu as de quoi écrire plusieurs livres, c'est surtout ça.
Peut-être.
Et donc, ouais. L'amiche tout à l'heure, en te présentant, citer Baudelaire, des références culturelles, il y en a énormément dans ton livre, beaucoup de citations qui vont de Coluche, oui, à Tabarly, Audiard et j'en passe, des citations aussi de toi, de toi-même, du Jobarty, bref, il y a une citation du moins qui devrait plaire à l'amiche, hein. Mais j'ai oublié de noter l'auteur. Alors, c'est une définition de pucelage. Petit oiseau qui n'a pas de queue.
Quand Alexis Piron.
D'accord.
C'est effectivement une citation d'Alexis Piron. Alors, je l'ai plus réellement en tête, mais effectivement, c'est l'idée en fait de cette.
C'est très poétique. C'est-à-dire que je lui donnerai en privé, hein, parce qu'on a un public un peu large quand même qui nous écoute. Moi, j'espère. Bon, c'est très poétique. Et donc voilà. Non, c'est vraiment plein de choses intelligentes qui accrochent et le glossaire c'est un réel plus pour le livre. Là, je dois dire que je l'ai vraiment aussi beaucoup apprécié.
Disons qu'en fait, c'est ce que j'explique dans les toutes premières pages. J'ai voulu mettre en place un glossaire parce que l'idée pour moi, c'était bien sûr que les moteurs se réunissent autour de ce livre, mais aussi tous les petits dames qui, soit par curiosité, soit par envie, soit par goût de la lecture, se réunissent autour de ce livre. Et j'ai essayé hein, de faire un livre ouvert à tout public. Et donc, en fait, ce glossaire permet pour beaucoup d'entre nous, si on ne connaît pas en fait certains termes moto, de se reporter en fait à ce glossaire, de se dire bon bah ça va, je finirai pas idiot, au moins j'aurais compris ça. Hein, mais voilà, l'idée du glossaire en fait m'est venue au fur et à mesure en fait de la mise en page du manuscrit.
Oui, alors ce qui est rigolo, si tu veux, par exemple, moi j'avais retenu une des définitions hein, sur les gris, par exemple, hein, qui sont donc en rapport avec l'enseigne Harley Davidson, hein, les petits artisans. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que on va parler d'une BD après, donc je veux une Harley, le quatrième tome, et il y a aussi juste la petite définition, c'est cité aussi, et la petite définition beaucoup plus synthétique. Mais c'était comme ça, un clin d'œil. Hein. Là, tu nous dis, tu parlais justement hein, de ce qui existait dans l'Aisne. Ça donne envie d'aller faire des balades. J'irais.
Au niveau de la Picardie, oui, c'est vrai. En fait, bon, des rassemblements, il y en a partout en France, hein, et je dirais que c'est pas forcément les plus grands rassemblements qui sont les meilleurs à faire. Je partirais même du principe que les petits rassemblements sont généralement beaucoup plus sympas, c'est familial. La plupart du temps, en fait, on se connaît plus ou moins tous de vue. Et lorsqu'on se connaît, en fait, qu'on s'est croisé une fois ou deux, bon, bah, finalement, on finit par discuter. Ceci étant dit, à côté de ça, oui, la Picardie, en dehors des rassemblements, est une région en fait qu'il faut découvrir. Il y a des coins super sympas et c'est pas uniquement en fait un immense champ de betteraves la Picardie. Hein. C'est également en fait des sites historiques. C'est également en fait des lieux super sympas, vachement jolis et puis parfois en fait des bonnes surprises, hein, des pubs, des restos. Enfin bon, moi j'adore la bouffe. Donc forcément, lorsqu'on peut s'arrêter, se poser en fait dans un petit lieu en fait qui paye pas forcément de mine et se taper la cloche, je dirais que la Picardie effectivement est une région à découvrir à moto.
Écoute Sylvain, on va se donner rendez-vous, c'est à Pécancourt, parce qu'on a l'immense chance que tu sois avec nous sur le stand lors du salon de Pécancourt. Donc oui. On va faire vite là, on va juste préciser que ton livre est édité chez Edilivre, qu'il est disponible sur commande à la Fnac, Cultura, Amazon. On peut le trouver aussi chez certains libraires.
Bien sûr, en librairie, juste le commander en librairie.
Voilà, alors on va mettre les liens, on va essayer de donner le maximum d'infos. Il est au prix de 19,90€, mais c'est un...
19,50€,
excuse-moi, je fais une petite majoration.
Pas de problème.
Et donc, mais c'est un beau papier, il y a des photos, c'est agréable à feuilleter. Donc, il faut vraiment que nos auditeurs puissent le découvrir. Donc, rendez-vous bientôt, Sylvain, on te remercie beaucoup.
Merci à vous de votre accueil, c'était super sympa.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Red dress, come on, boys. One, two, three, four. No!
Voilà, toujours de la lecture, Patricia, nous avons Marc Quadrado, scénariste du quatrième tome de Je veux une Harley. Alléluia.
Ouais, c'est carrément la fête aujourd'hui parce qu'on a enfin l'opportunité de parler du quatrième donc tome, comme tu dis, de Je veux une Harley, qui est paru déjà en novembre dernier et j'ai réellement beaucoup aimé. Et encore une fois, cadeau pour Coquin Coup, nous avons le grand plaisir d'avoir à l'antenne son scénariste Marc Quadrado. Merci Marc de nous faire ce cadeau.
Oui, bonjour Patricia.
Bonjour.
Plaisir d'être là.
Ben écoute, c'est le plaisir. Alors là, il est total pour nous. Juste le temps de rappeler aux auditeurs, hein, depuis quelques années, on va dire globalement quatre, Marc, tu nous offres avec ton compère Marjorin une série démarrée de façon géniale, hein, parce que c'était après une coloscopie de son héros. Déjà, ça démarrait fort.
Oui, c'est ça. Oui, d'associer la coloscopie à Harley Davidson, c'était pas évident, mais c'est en fait ce qui a donné un peu le focus sur cette série au départ. Donc je trouvais ça assez marrant. De toute façon, c'est autobiographique, donc j'avais réellement passé une coloscopie. Et en fait, cet album qui devait être un one shot à l'origine, parce que voilà, raconter un peu le milieu biker comme ça en 44 planches. Enfin bon, oui, c'est avéré que la demande d'une suite a été assez forte, donc ben voilà, on s'est remis au travail avec Franck et j'ai écrit les trois tomes suivants. Pour l'instant, il y a tome 4, un par année.
Voilà, et écoute, moi j'attends le cinquième parce que sincèrement, je trouve que la série évolue très très bien, en tous les cas à mon goût, parce que j'adore l'humour qu'il y a à toutes les pages et j'aime beaucoup l'univers que tu façonnes au fur et à mesure des volumes.
D'ailleurs, ce que j'essaie, c'est de me distinguer un petit peu par l'écriture des albums de moto qui existent déjà, dont certaines séries sont vraiment excellentes. Beaucoup sont dans la lignée du Joe Bart Team. Mais là, bon, ça parle de moto, mais ça parle pas que de moto. Ça parle aussi de quinquagénaire, ça parle aussi des problèmes de couple, ça parle de plein de choses. Mais la Harley est là en fil rouge constamment.
Donc, ça, là, dans ce monde de Harley, tu introduis un sidecar, hein, qui n'est pas de n'importe quelle marque.
Oui, ben encore une fois, Je veux une Harley, c'est vraiment une série autobiographique, que je caricature beaucoup de choses, mais au départ, c'est basé sur des histoires qui m'arrivent. Et puis après avoir été passionné par Harley, mais enfin la passion continue, hein, je pense qu'elle s'arrêtera jamais, je me suis intéressé au sidecar Ural, sidecar russe, donc qui...
Mon Dieu.
Qui sont basés, enfin le moteur, le qui sont... Comment dire, qui découle un peu de la BMW R72 de 1941, voilà, pour être précis. Et enfin, donc, c'est la BMW russe qui a connu pas mal de problèmes de fiabilité pendant des années, mais qui, depuis quelques années, est devenue vraiment une moto originale et quand même aujourd'hui assez fiable.
Marc, on prévient, on a un possesseur de
Ural. Voilà, un possesseur de Ural pour nous donner...
Qui possède cette moto depuis au moins, je veux dire... au moins 10-15 ans.
Non, on va aller bientôt 10, on va dire.
10, voilà.
Donc il pourra nous...
Sans aucun souci.
Voilà, et on l'a invité aujourd'hui justement pour parler de...
Il va nous donner son
Alléluia.
Avis. Voilà. Ouais. Et donc, l'univers de la moto a comme d'habitude la place centrale hein, dans ton livre.
Oui, bien sûr. La moto, bon, moi je le raconte dans le bouquin. Moi, je suis venu au Brocube assez tard. Et puis, bon, j'étais passionné de moto quand j'étais gamin. Et puis après, bon, la vie a fait que bon, j'ai passé mon permis de conduire de voiture. Je suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé. Puis jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ben maintenant, je vais m'acheter la grosse moto que j'ai pas pu m'acheter quand j'étais plus jeune. Et donc, la passion est revenue. Et puis aujourd'hui, je ne pense qu'à ça. Je travaille autour de la moto. Je bricole à mon petit niveau mes motos aussi. Moi, je suis pas mécano, mais bon, il y a des petites choses que je fais, j'entretiens, etc. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie. Donc, c'est un réel plaisir d'arriver à travailler la bande dessinée avec une passion, avec la passion de la moto. Donc,
on le sent. On le sent. Et puis alors avec avec du bien réel, parce que en fait, si vous voulez vérifier hein, ce qui arrive aux protagonistes, et puis il y a le prochain Ventoux classique dont tu parles, hein, parce que ça va se passer au moment où il y a cette épreuve et où il y a aussi la bourse trimestrielle de Velleron. Et si les lecteurs veulent vérifier l'ambiance de l'album, eh bien, il faut qu'ils aillent au 24 avril pour pouvoir profiter de tout ça. Et c'est grâce à toi qu'on a mis l'événement dans notre calendrier, parce que après avoir lu la BD, je suis allée voir en fait sur le site hein, du Ventoux Classique, et effectivement, ça donne envie de faire le déplacement.
Oui, mais des montées historiques, bon, je sais qu'il y en a plusieurs en France, mais moi c'était la première fois que j'assistais à une montée comme ça de moto ancienne, et c'est le club de motards des Boost Fighters qui m'avait dit de venir, parce qu'ils sont devenus des copains, il y a un chapter qui est dans la région, et moi j'ai passé un super moment à voir ces vieilles motos grimper comme ça, bon évidemment elles roulent sur 4-5 km seulement, mais c'était vraiment un super moment, et dans la région on a la chance d'avoir aussi beaucoup beaucoup de brocantes motos tout au long de l'année.
Oui, celle de Velleron, on essaye de l'annoncer, même si nous, on est très loin, parce que c'est un super moment pour les motards de cette région. Et donc, on va juste demander l'avis à Laurent. Laurent, qui est donc aux commandes d'un Oural depuis une dizaine d'années. Et comment tu as réagi à la lecture de Alléluia?
Bon, c'est sympa ce grand écart entre la moto russe et la moto américaine, quoi. C'est ça qui est amusant. On avait bien un concessionnaire dans la région qui faisait les deux marques, donc c'était amusant. Et puis moi je voudrais citer, vu qu'on est dans les ouvrages, et puis je sais pas si tu le possèdes, cher auditeur, c'est 50 ans de moto russe Oural et Dniepr de Constantin Parvulesco. C'est sorti chez Etaï. Et voilà, là si on veut se renseigner un peu plus, je pense qu'ils en parlent mieux que moi, il y a des photos et c'est un très très bel ouvrage.
Écoute, je cherche ce livre désespérément depuis des années, mais il est en rupture de stock.
Ah.
Mais a priori, il n'est pas réimprimé.
Bah, écoute, il te le vend là, mais très cher.
Je te fais des photocopies si tu veux.
On peut te faire des photocopies, il n'y a pas de problème.
Non, mais je me suis renseigné et ça monte à des prix incroyables. Je crois que quelqu'un le vendait 100 euros sur Internet.
Oh oui, voilà. Je ne l'ai pas payé ce prix-là, non.
Non, il coûte une quarantaine d'euros, mais c'est vrai que c'est un livre que, justement, quand je suis dans des brocantes, moto ou pas moto, je jette un coup d'œil, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Tu as bien de la chance.
Vas-y, au moins, tu gardes une quête, tu vois. Il faut toujours avoir une quête.
On va essayer de faire passer le message. On ne sait jamais, parmi nos auditeurs, il y a peut-être quelqu'un qui serait trop heureux de
s'en débarrasser.
De partager.
Faire de la place.
Alors, Laurent,
faire un cadeau.
Comme c'est les soldes en ce moment, Laurent va te faire un prix. Il va te le faire à 150.
Voilà. Bah, en tous les cas, ce que je vous conseille, c'est d'aller lire les dialogues de Alléluia. Moi, je me suis régalée. Quand je pense au discours d'Alain, qui effectivement pense à ses frères russes dans leur usine mal chauffée, qui ont découpé, plié, c'est tout rigolo. C'est plein de clins d'œil, c'est plein de charme. Moi, je dois dire que j'avais envie de dire Alléluia, on a une super BD là et il faut...
Merci beaucoup. à Laurent, le possesseur de Oural.
Oui.
C'est que moi aussi, j'ai un Oural depuis 2 ans, donc j'ai acheté un des derniers Oural Carbu parce qu'ils sont passés en injection.
Bonne idée.
Voilà, parce que moi, mon Harley, c'est une injection, je suis très content, mais j'avais envie de en démarrant mon Oural, de la faire chauffer, de la voilà.
Le bon vieux temps.
Et pour être honnête,
elle a démarré au kick. Ah.
Et pour être honnête, Marc,
en fait,
Laurent est très gentil. Il va dire à personne qu'on a pu le chahuter quand il est arrivé.
Ouais, c'est des jaloux. N'écoute pas ces gens, ils sont jaloux.
Et maintenant, on est conquis.
On va revenir justement. On lui a dit, écoute, quand il l'a acheté cette Oural, Laurent, on lui a dit de toute façon, t'en as pour 2 ans, et puis c'est tout. Après, tu peux aller la mettre
peut-être je sais pas où, hein, mais
voilà. Ils ont tous, jeté leur moto, j'ai toujours la mienne.
Voilà, et contrairement, ça fait presque 10 ans qu'il la possède et qu'il roule avec. Hein.
Non, mais c'est des motos formidables, les Ural. Bon, elles se sont fiabilisées au fil des années, mais on peut les, je pense que c'est ce que Laurent a fait, on peut changer un peu des pièces pour les rendre plus fiables, mais c'est des motos, on fait le tour du monde avec. Il y a des gens qui partent très très loin. Et c'est,
alors si tu respectes le cérémonial, eh bien, il n'y a pas de problème, hein. Tu fais chauffer avant de partir. Ouais.
Tant qu'il y a de l'huile et de l'essence.
Et tant qu'il y a de l'huile, voilà, c'est bon, et de l'essence.
Non, c'est vraiment des motos attachantes et avec une ligne incroyable. Enfin, moi j'adore.
C'est vrai que quand on met, dans le bouquin, on le voit aussi, quand on met une Harley et une Ural, bon, c'est pas que la Harley est devenue banale, mais ça, c'est vrai que ça s'est pas mal démocratisé. Tandis que la Ural, il y a toujours quelqu'un qui vient te parler dans le moindre village, quoi. Il y a toujours un papy, un gamin. C'est vrai que c'est une moto à bonheur, quoi. C'est une machine à bonheur.
Alors, ça fait vieux, hein, mais bon.
Voilà, justement, bah, elle est bien restaurée, votre machine. Ben non, elle est neuve.
Oui,
j'ai failli
oui,
me battre.
Incroyable.
J'ai failli me battre avec des jambes. J'ai dû montrer la carte grise.
C'est l'avantage, c'est qu'une moto que tu vas au magasin, tu l'achètes neuve, déjà quand tu sors, elle est vieille.
Ce qui est génial avec les Ural, c'est que bon, moi je vais de temps en temps à des concentrations Harley, bon, même si je commence un peu à être lassé, mais c'est histoire de rencontrer, de revoir des copains. Mais si tu viens avec une Ural, tu peux être sûr que tout le monde va se précipiter autour de l'Ural. Il y aura un attroupement autour de l'Ural. Et dans une concentration Harley, ça plaît aux harleyistes. Hein, ça, c'est
moi, ce que j'aime beaucoup, c'est me garer en vrac. Et puis, tout le monde regarde et dit comment ce con va réussir à sortir de son parking. Et là, t'enclenches la marche arrière, tu recules gentiment et tout le monde ouvre des grands yeux et fait...
Tout ça, ça parce j'adore. Que voilà, cette machine possède une marche arrière.
Tout ça, mécanique, rien tout à ça. Fait. C'est bien conçu. Avec ta grosse Harley de 340 kg, va faire une marche arrière. Tu réfléchis avant.
Et même les Ural qui solo, bon, en France, c'est plus homologué, mais même les Ural solo ont la marche arrière.
Ah oui, ils ne se sont pas embêtés à changer quoi que ce soit.
Non. Ça, c'est génial.
Merci Marc, et donc au plaisir de te retrouver avec nous dès que le 5e album sera en vente.
Ok, ben ce sera un plaisir de revenir sur la radio, et puis voilà, en tout cas, vive Harley, vive les Ural.
Voilà, et on peut rappeler qu'il y a quand même, ou dire qu'il y a une amicale Nièpre Ural,
oui.
Et que si on cherche sur internet, c'est un milieu bien vivant de gens qui s'entraident, oui. Qui suivent des conseils, des tuyaux, qui se réunissent régulièrement, on fait des rassemblements, des trucs sympas, des balades et tout, il ne faut pas hésiter, on est ouvert à toutes les motos des pays de l'Est, et puis les autres aussi, il n'y a pas de problème.
Et je confirme, ils sont bien vivants.
On vous a tous enterrés la dernière fois, d'ailleurs, hein. Faisez-moi les malins le lendemain.
Voilà.
Ouais. On n'oublie pas, hein, tu es à la recherche de 50 ans de moto russe. Alors, c'est Laurent qui va dire l'auteur.
Alors, 50 ans de moto russe, Ural et Dniepr, Constantin Parvulesco. Et c'est sorti chez Etaï. Etaï, c'est une boutique qui est à Boulogne-Billancourt. Voilà,
et si on a des nouvelles, on te fait suivre.
Mais sinon, ouais, si tu ne trouves pas, on peut toujours te faire des photocopies. Hein, ce sera un peu moins.
On n'a pas le droit, il ne faut pas le dire. Et l'auteur, alors, il va râler. De quoi il va vivre, ce monsieur
On ne trouve plus le bouquin, de toute façon.
On va pas arrêter la miche. Bon dimanche, Marc.
À
bientôt.
Merci, bon dimanche.
Au revoir.
Au revoir, merci. We'll be right back.
Comme ça, les motards, il faut pas grand chose pour engager une grosse conversation. Alors, une neurale, c'est quoi? Ça roule pas? Ou alors, ah non, je préfère ça. Et puis, jamais je pourrais acheter ça. Non, je me vois pas sur cette moto. Enfin, bref, hein, écoute, ça va durer encore 2 heures comme ça. Patricia, aujourd'hui, on va parler présentation d'un motoclub.
Voilà sur... notre rubrique, motoclub du mois. Et à l'approche de l'Enduropal, ben, on s'est tourné vers un motoclub qui donc pratique le motocross. Bienvenue à toi, Jérémy, pour nous parler du motoclub de Vingles.
Oui, c'est ça.
C'est les étangs.
Ouais, voilà, le motoclub des étangs qui se situe sur la base de loisirs de Vingles d'Ouvrain Bilberclos. Un motoclub en plein essor car, par rapport à l'année 2014 quand on a eu 25% d'adhérents en plus. Donc c'est un club qui se porte très bien quoi, de tout niveau, de tout âge. Qui démarre de, on va dire, de 6 ans encore. Notre plus jeune adhérent cette année donc, qui a pris sa première licence 7 ans. Au plus ancien de la région, Roger Cardon, qui va sur ses 74 ans.
Il n'y a pas de problème avec l'âge. Si on a des enfants, qu'on a envie de leur faire découvrir le motocross, on peut s'adresser à vous. Donc, et un adulte qui aurait envie de se mettre comme ça, cette discipline, et qui n'aurait pas vraiment d'expérience.
Il n'y a pas de souci, il sera bienvenu au club, comme on dit. Donc non, on est ouvert à tout niveau. Au sein du club, on propose des stages, surtout cette année où on a eu pas mal de demandes. On va mettre en place avec nos animateurs un stage d'adulte qui se déroulera au mois de juin, car on a pas mal de demandes justement des personnes qui veulent s'y mettre, quoi. On ne fait pas que l'adulte, on met aussi en place des stages, au niveau de nos jeunes, ainsi que l'école de conduite UFOLEP, car on est un club qui dépend de l'UFOLEP. Mais ça, je sais qu'on va en parler après.
Voilà.
Et au sein du club, donc là, l'année dernière, on a fini à 268 licenciés, donc c'est pas rien, c'est un des plus gros clubs UFOLEP de la région, si ce n'est le plus gros club. Et là-dedans, on a 80 pilotes qui participent au championnat, donc motocross UFOLEP, et on a une vingtaine de trialistes de motos anciennes. Dont on fait une épreuve au mois de juin cette année.
Et pour avoir toutes ces infos, les infos plus précises, des horaires, qui contacter?
Alors, on a un site, le MC des étangs, fruit.fr, où là, on a toutes les infos au niveau du club, les dates, les heures d'ouverture, les contacts. Ou alors, on peut se déplacer directement lors des séances d'entraînement le week-end, quoi.
Et il faut le préciser, parce que quand on a des enfants, qu'on veut faire démarrer un sport, le club accepte les tickets loisirs des caisses d'allocation familiale.
Oui, c'est bien ça. Ouais, ouais. À savoir aussi qu'en France, pour démarrer la moto, il faut 6 ans minimum. Car en dessous, on ne peut pas te délivrer de licence.
D'accord.
Et alors, si tu es papa, tu seras papa, donc est-ce qu'on peut... Tu fais de la moto ou du motocross, est-ce que tu peux donner une carte d'adhésion à 6 mois, déjà?
À 6 mois?
Comme tu dis, à 6 ans, ça commence à 6 ans. À 6 mois? Non, on peut faire une adhésion, non?
Vous
non,
avez une autre question, peut-être?
Oui. Ça, c'est ta question piège, en fait.
C'est l'humour. C'est l'humour l'amichien. Il va falloir qu'on réfléchisse pour tout comprendre.
Tu tombes sur un candidat passionné de motocross. Il dit, moi, mon fils, il faut absolument qu'il soit... Dès qu'il a sa naissance, il faut qu'il ait une licence au motoclub de Vingles.
Ouais, mais il faudra qu'il attende.
Oui, voilà. Il n'y a pas encore de liste d'attente de cette envergure-là, Jérémy.
Tu m'as dit entre 6 ans et 77 ans, c'est ça?
Ouais, après, je veux dire...
T'imagines, on peut dire, voilà, écoute...
Tant que la santé le permet, en fait.
Voilà, ouais. Voilà.
Mais si on prend la licence UFOLEP, qui est valable du 1er septembre de l'année au 31 août, donc ça couvre complètement, ça donne accès gratuit au circuit du motoclub.
Du motoclub, oui, c'est ça.
Mais quand même avec une participation financière, parce que je sais pas...
Non, en fait, lorsque vous prenez votre licence, dans la licence, on a une part qui revient au club et le reste... au niveau du FOLEP, et donc vous avez accès gratuit et illimité au terrain, aux heures d'ouverture. Ensuite, la licence vous donne droit de rouler partout en France sur les terrains affiliés à l'UFOLEP. Et là, par contre, les terrains, lorsque vous allez chez un autre club, ils vous demandent un droit d'entrée, qui peut varier de 6 à 15 euros, on va dire.
Et en restant très sérieux, le 26 juin, c'est le trial.
C'est le trial AFATA, donc moto ancienne.
Voilà. Très belle épreuve.
Très, très belle épreuve, surtout pour les amoureux des vieilles machines. Moi, j'étais pas un connaisseur.
Que des vieux, de toute façon, là. Y a pas de jeunes.
Alors, que des vieux, on va dire que des vieux au niveau machine, alors. Parce qu'au niveau, au niveau pilote, on est surpris, il y a des jeunes. L'année dernière, on a eu un participant de 16 ans. Donc, c'est vrai que l'année dernière, pour ceux qui étaient présents, on a un peu pataugé, on va dire. Car on n'a pas été vernis par la météo, quoi. Donc, cette année, on espère que ça se déroulera mieux. La date est prévue au mois de juin, car il y a un autre club qui avait pris notre date du mois de mars.
Ah, c'est ça qui explique le changement
c'est
de date.
C'est ça qui explique notre changement de date. C'est vrai que le trial à Vingles, c'était le mois de mars, quoi. Et là, avec les amis trialistes, on a décidé d'une nouvelle date. Donc, on espère réussir niveau météo et au niveau... au niveau visiteurs.
C'est tout ce qu'on te souhaite. Et donc, là, on va faire une petite pause musicale. Hein, et puis, on va retrouver Dominique Barois pour la suite, pour nous parler donc de l'UFOLEP. Et donc, comme tu disais, oui, le MC de Vingles est affilié à l'UFOLEP.
Est affilié à l'UFOLEP, oui.
Et profite de tout cet encadrement.
Voilà. We'll be right back.
missing a gem. Truck stop alone and another sin. I never left you in the needs of us. You're gonna find it in another man's touch. I guess I know, baby, where I stand. I can't see him, no man.
Notre deuxième rendez-vous de motocross, c'est avec Dominique Boulonnet, qui est l'ancien président du motoclub de Vingles, des étangs, hein, à Vingles.
Voilà. Oui. Dominique Boulonnet,
qui est aussi président de la commission technique régionale Flandre et Artois.
Mais Dominique Boulonnet, pourquoi tu m'as soufflé Barrois tout à l'heure?
Oh bah, t'es pas gonflé là, Patricia. Alors là, révise tes fiches.
Assume.
Révise tes fiches.
Donc, oui, bah, on va te laisser le micro, Dominique. C'est...
Ben oui, donc, merci d'abord d'inviter la moto tout-terrain dans votre émission, parce que vous êtes plus peut-être une émission routière, mais c'est sympa.
Non, pas du tout, Dominique, mais pas du tout.
Oui, remarque, avec Guy,
c'est toutes disciplines confondues, dans la moto, et Dieu sait qu'il y en a en moto.
Exactement, ouais. Hein, d'inviter l'UFOLEP également. Oui, donc Jérémy est un peu modeste, hein, il gère un club de près de 300 adhérents.
Tu ne l'avais pas dit ça.
Et je pense que c'est un des plus gros clubs UFOLEP de France en moto, hein, parce que bon, souvent les associations tournent entre 15, 20, il y a quelques associations qui frôlent les 100 adhérents, mais près de 300 adhérents, c'est l'exception quand même. Voilà, donc moi, ben, depuis quelques années maintenant, je me suis engagé, je dirais, à un niveau un peu plus régional, puisque je gère avec une équipe d'une quinzaine de personnes l'activité moto UFOLEP en général. Donc ça représente beaucoup de motocross en partie, le trial et également une activité qui est le mob vitesse avec un club spécifique qui s'appelle Continental Vario et qui organise pour les jeunes en particulier des activités 50 cm3 mais en vitesse. Hein. Alors c'est une activité qui a beaucoup de difficultés depuis quelques années parce que avant on les autorisait encore, quand je dis on les autorisait, je ne parle pas du FOLEP mais des préfectures et sous-préfectures, d'organiser quelquefois par exemple des parkings de grande surface, hein. Mais bien sûr les conditions de sécurité sont de plus en plus strictes et maintenant ils sont obligés d'organiser sur piste, donc ils sont dépendants, ben, soit de ils vont souvent à la piste de karting d'Ouvrain par exemple, hein. Mais ça leur coûte de l'argent de location, donc ils arrivent néanmoins à maintenir 5 ou 6 dates dans la région Nord-Pas-de-Calais pour évoluer, hein. Sinon au niveau motocross, eh bien on a un calendrier cette année qui s'étale, je dirais comme traditionnellement, d'avril à fin septembre, avec 14 épreuves réparties sur toute la saison, quoi.
Voilà, on va faire peut-être un petit tour des circuits un peu sur ce calendrier UFOLEP. Ça commence le 3 avril à Lune Plage.
Voilà, donc Lune Plage, qui est le terrain d'entraînement, on parlait tout à l'heure du Touquet, tu parlais du Touquet, donc qui est le terrain d'entraînement des pilotes de sable, hein, à longueur d'année, et qui est à double affiliation. En réalité, il est affilié à la Fédération Française, également à l'UFOLEP, et donc il organise une épreuve. C'est par l'intermédiaire d'un club qui est à côté de Lune Plage, qui s'appelle le motoclub de Capelle-la-Grande. Ensuite, on ira à Arleux. Le mois d'avril est traditionnel dans les dates, donc à Arleux pour un motocross régional plus l'école de conduite UFOLEP. On parlait tout à l'heure des jeunes, donc régionalement depuis plus de 20 ans maintenant, eh bien, des stages sont mis en place avec des animateurs formés par les clubs ou formés au niveau régional et qui encadrent tous ces enfants pour les amener à la compétition. Hein, Jérémy parlait de l'âge des licences tout à l'heure. Au jour d'aujourd'hui, la loi française interdit également la compétition avant 12 ans. Hein, donc, pour occuper les enfants de 6 à 11 ans avant leurs 12 ans révolus, il faut les maintenir en stage et en démonstration cross, mais sans classement, sans grille de départ pour les gens qui connaissent le motocross. C'est vraiment une caractéristique formatrice dans ce cas-là, quoi.
Et l'avantage pour un club d'avoir comme ça une double affiliation, FFM, UFOLEP?
Alors,
Ça peut être complémentaire, donc?
Bien sûr, mais c'est tout à fait complémentaire. Bon, il faut savoir déjà que les pilotes, certains, pas tous, parce que bon, c'est quand même un sport qui coûte de l'argent. Et justement, je réfléchissais tout à l'heure, je voulais faire une petite aparté. Il y avait encore, moi ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde de la moto UFOLEP, il y avait encore avant beaucoup de gens qui étaient des routards qui faisaient du motocross, ou vice-versa, qui étaient des crossman et qui avaient une moto routière. Bon, maintenant, vu les conditions quelquefois financières, bon, on en voit de moins en moins. Il y en a encore dans les anciens, mais bon, soit on se spécialise dans le motocross, soit on fait de la moto de route, quoi. Au niveau de la double affiliation, ça c'est parce que certains pilotes, par exemple, pratiquent dans les deux championnats. Hein. Il faut bien sûr la licence dans les deux fédérations, c'est une obligation, et donc le club s'affilie dans les deux fédérations. Bon, nous, au Motoclub des Étangs, c'est un choix politique dans le sens qu'on a toujours eu assez d'adhérents, on ne veut pas non plus arriver à des 400 ou 500 adhérents, parce qu'il faut gérer, quoi. C'est quand même beaucoup d'administratifs, gérer une association, quelle qu'elle soit. Hein. Donc le Club des Étangs est toujours resté à simple affiliation, quoi.
Mais depuis ses origines, l'UFOLEP a quand même une politique spécifique.
Oui, ben, l'UFOLEP, on va dire que la Fédération française favorise l'élitisme, c'est-à-dire que si on veut être quelqu'un de reconnu, avoir des résultats, paraître un peu plus dans la presse, il vaut mieux tout de suite s'adresser à la Fédération française de motocyclisme. Par contre, bon, l'UFOLEP a toujours eu une vocation de sport pour tous, donc on accepte tous les niveaux de pilotage, bien sûr, bon, avec des restrictions de sécurité, des choses comme ça. On accepte également les enfants, mais ce que fait également la Fédération. Bon, mais on voit souvent, par exemple, Adrien Van Beveren, qui est actuellement bien classé au Dakar, eh bien, a fait ses premières armes en UFOLEP, par exemple. Hein. Jean-Michel Bayle, qui a fait une carrière aux États-Unis, a fait ses premières armes à Arleux. Hein. Ses premières courses, il les a faites à Arleux quand il avait 6 ou 7 ans, en UFOLEP également. Hein. Donc c'est soit pour le sport plaisir, le sport pour tous, on reste en UFOLEP. Et puis si on veut évoluer en compétitivité, ben, il faudra un jour ou l'autre passer en Fédération française. Hein.
Voilà, écoute, Dominique, on va passer un morceau de musique. On va revenir un petit peu sur la fin. Enfin, on n'est pas encore au milieu du calendrier, hein, parce qu'il reste encore une scène d'épreuve. J'ai vu qu'il y avait une nocturne, donc c'était le motoclub d'Iceberg.
Oui. Donc, voilà. une date traditionnelle. Hein, donc, c'est un motocross amical nocturne où le club invite les fédérations étrangères. Hein, et je parlerai tout à l'heure un peu plus de l'épreuve qu'organise Jérémy fin août, qui est le championnat international, mais là, officiel. Hein.
We'll be right back.
Dominique, on va vite finir avec ce fameux calendrier UFOLEP, parce qu'on doit partir en Norvège, on va avoir 9 minutes, ça va faire un peu chaud, mais bon, on devrait pouvoir y arriver. Donc on va terminer avec le motoclub de Vingt, je suppose c'est ton motoclub fétiche, je suppose, que tu es l'ancien président.
Oui, mais bon, maintenant je gère toute l'activité.
Mais tu es comme président de UFOLEP, donc tu dois...
Voilà. L'activité, on ne va pas énumérer toutes les dates, mais bon, sachez que d'avril à fin septembre, il y a 14 manifestations d'organisées avec des points phares. Donc le motocross international d'Isberg qui a lieu le 20 août en nocturne avec feu d'artifice. Et puis également Jérémy qui accueillera une semaine plus tard le dimanche 28 août la manche française du championnat d'Europe IMBA, une fédération internationale international motorsport bond for amateurs.
Oui, c'est un truc flamand, je crois.
Voilà, c'est une fédération flamande.
L'accent est bon.
Qui regroupe une dizaine de fédérations amateurs, dont l'UFOLEP en France. Et donc un championnat qui se déplace dans tous les pays. Quoi. Et donc Jérémy accueillera la catégorie Open, les 250-500, pour la manche française.
Tiens, pendant le morceau de musique, on parlait, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans les studios, il y a presque plus de femmes que d'hommes. Est-ce que les femmes arrivent au motocross, prennent des licences?
Ouais, bien sûr.
Oui, ben le
Jérémy.
C'est-à-dire,
elles
sont classées devant Jérémy, alors il est défiteur.
alors Jérémy, qu'est-ce qui se passe?
Non, donc on compte. Bien sûr, on n'oblige pas les gens à faire les compétitions complètes, tout le calendrier, mais une quinzaine de féminines ont été classées en 2015. On leur laisse par exemple le choix de la catégorie. On leur impose pas, par exemple, si elles roulent en 125, de rouler forcément en 125. Qui est une catégorie un peu plus rapide, et ils peuvent aller dans une catégorie qui s'appelle Prestige, réservée aux anciens et qui roule un peu moins fort, un peu moins vite. Mais après, elles ont le choix suivant leur niveau. Et d'ailleurs, en 2013 ou 2014, la région a eu une championne de France, UFOLEP. Ouais.
Puis on a aussi une superbe championne, Olivia Lancelot. Hein.
Exactement.
Qui représente bien aussi le sport français en motocross.
Voilà,
côté
tout à
féminin.
Fait, qui était au Supercross de Lille.
Supercross de Lille, voilà.
Et donc, pour terminer, je donne l'adresse, si vous le permettez, du site internet de l'activité moto UFOLEP dans notre région. Donc, c'est http://ufolep.moto.59.62 pour les deux départements, .free.fr. Et puis, je termine, si vous permettez... La grande région vient de se former, donc en moto UFOLEP, la grande région va se mettre en place également à partir du mois de juin de cette année.
Donc avec la Picardie.
Exactement.
Très bien. Donc on peut retrouver l'intégralité des épreuves, page 5 du calendrier des
motoclubs. Tout à fait, qui a été distribué à tous les... Il est tiré à 1200 exemplaires, distribué à tous les clubs.
Alors le calendrier, c'est 35 000. Par contre, ton petit calendrier,
oui,
c'est 1500.
Oui, voilà. Merci d'ailleurs de nous publier.
Tu suis pas, Dominique. Tu suis... Très bien. Écoute, on charge les motos parce que là, on met l'attente sur le porte-bagages. On va remplir les sacoches parce que après, nous, on se barre en Norvège.
En Norvège. Merci.
Je sais comment.
I failed what I tried. Seen what there is. try to make them believe everything I see. Make them believe everything I need to be. Make them believe everything I see. Make them believe. Make them believe.
Contact, coup de kick, et on part en Norvège.
Oui, on va partir en Norvège parce que avec Valérie et Edwige, elles sont femmes, elles sont motardes, elles roulent, elles mécaniquent et elles se concoctent des périples. Alors, donc un beau voyage en Norvège. Alors moi, ça m'a tout de suite. On va donner un petit peu l'esprit de la façon dont vous procédez. Vous aviez le projet de partir en Croatie.
Oui, c'est ça. Bonjour, hein, moi Valérie, c'est la brune, ouais. Qu'on appelle aussi la jaune parce que je roule en moto jaune et puis en FZX précisément, toujours habillée en jaune avec un casque jaune. Et puis mon amie Edwige, la blonde et aussi la rose.
Oui, parce que moi j'ai un casque rose et un blouson rose.
Là s'arrête la comparaison éventuelle avec les Teletubbies.
Merci Patrice. Ah,
va falloir pour Firmat, je me désappelle ça.
Donc enfin, toujours est-il que pendant que les hommes s'entraînent autour de Vingles, Isberg et essaient de préparer des motos faciles pour les femmes elles partent en Norvège. Voilà, ça c'est dit. Voilà, ça c'est fait.
Donc mais précise qu'il y a eu quand même un changement de plan parce
oui,
que
c'est ça,
partant
c'est ça.
Pour la Croatie arrivant en Norvège.
Voilà. Au départ, on voulait partir en Croatie hein, parce qu'on nous avait dit que c'était très joli, on pensait partir en Croatie.
C'est pas la route.
Et donc, on a préparé l'itinéraire sérieusement plusieurs mois avant. Hein. On a acheté des cartes routières pour ma part. Edwige,
Moi, j'ai fait en sorte que sur mon GPS, je puisse avoir les routes de la Croatie.
Voilà.
Et vous êtes partie en Norvège.
Centrale. Mais oui, mais alors attends, on va t'expliquer comment ça s'est passé. Tout ça, c'est très logique.
La cause des femmes est défendue.
C'est pas une erreur d'orientation.
Ils sont en train de se moquer de nous ?
Non, pas du tout. Non, c'est marrant. Mais
allez-y.
C'est marrant ce que vous dites.
Alors, c'est pas une erreur d'orientation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est simplement que, on a une grande adaptabilité. Hein, voilà.
Mmh. C'est ça qui fait notre force.
Mmh. Voilà. Et quelques jours avant, bon, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu un été assez chaud, hein, avec 35 degrés en France. Et puis en Europe centrale, il faisait extrêmement chaud. On a eu l'occasion de voir que ma moto avait du mal à supporter la chaleur, perte de liquide de frein important. Et un jour, j'ai vu Edwige arriver avec la mine complètement défite.
Bon, j'avais pas de fuite comme ta bécane. Hein.
C'est ce que j'allais dire. En revanche, j'avais beaucoup de mal à supporter la chaleur. Donc, on a décidé de partir en Norvège. Hein. Ça s'est fait au petit matin. J'ai dit, si on partait en Norvège, ouais, allez, va pour la Norvège.
Et voilà. Et voilà. Première valeur vraiment motarde, la liberté. Hein, voilà, vous pouvez très bien changer de plan et y arriver, ça vous pose aucun problème.
Juste, on a dû racheter des cartes. Mais sinon, oui, comme notre façon de voyager, c'est de partir à l'aventure, en camping et sans réserver. Alors, on a bien fait de ne pas réserver du tout. Hein, parce que,
bon. Non.
Je comprends que des cartes de Croatie en Norvège, ça ne peut pas bien.
C'est pas utile.
Ça peut pas le faire.
C'est pas utile. Et on a dû aussi changer de duvet, parce qu'on avait prévu des duvets très légers. Donc on a dû prendre des duvets chauds. Mais c'est tout, hein, c'est les seuls changements hein, qu'on a fait. Et donc nous voilà partis. Changement de destination, changement de carte, etc. Et on est partis en août pour 15 jours. Donc l'itinéraire prévu pour faire vite, on allait passer par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et enfin la Norvège. Au total, on a parcouru 5000 km et on avait environ 1600 km pour arriver à la frontière norvégienne, hein, donc à Oslo. Hein. Donc on n'avait absolument rien réservé, on avait préparé les bécanes.
Ouais.
On avait appris à quoi ? À graisser la chaîne seule. Hein ?
Un peu plus quand même.
Non, mais ça vous paraît un détail, mais mettre la bécane sur la béquille centrale, une bécane chargée, et quand on est petit, pas très costaud, c'est pas évident. Mais à deux, on y arrivait. Hein. Mm-hmm. Et puis, on a évité de prendre la... on voulait prendre une gazinière, mais on n'a pas pris. Hein. Elle était trop chargée.
Non, mais donc j'ai acheté quand même. Hein. Elle pourra servir pour un autre voyage.
Ouais. Alors d'autant que moi, il fallait que je parte avec un jerrycan plein puisque j'ai que 150 km d'autonomie pour aller en Norvège. C'est un peu court. Et puis voilà, donc on est parti. Et première étape à Venlo. Et là, je vais donner la parole à Edwige pour parler de ses exploits.
Oui, c'est pas difficile. En fait, on prenait de la voie rapide et puis à un moment donné, ma moto très sautée. Donc, je pensais au départ que je me suis arrêtée, je pensais que c'était le revêtement. Et en fait, non, il s'est avéré que j'avais problème de roulement de roue à l'avant. Donc, on s'est arrêté très vite à une station-service. J'ai appelé mon assurance. Le gars qui est venu, il n'était pas du tout spécialisé en bécane. Et il nous a gentiment orienté vers un camping le plus proche. Mais il a quand même fallu faire 30 km à 30 km heure avec un roulement à l'avant HS. Voilà, donc ça. Et puis bon, c'est arrivé un samedi après-midi, c'est ça ?
Oui, et puis on avait fait au moins 300 bornes, hein, dedans.
Ça commençait fort.
Un samedi après-midi, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, en Allemagne également, en général, les commerces sont fermés. Donc Edwige a eu la bonne idée de tomber en panne un samedi après-midi. Je lui en veux pas, mais enfin...
Un petit peu quand même. Hein,
elle a fait chuter ma moyenne. Hein, mais bon, je l'ai attendu et ça s'est bien passé. Donc on est parti, on a campé pendant 3 jours, parce que le samedi après-midi est fermé, le lundi également. Edwige, donc toi tu as pu diagnostiquer ta panne.
Oui, j'ai potassé sur internet et puis en anglais parce que du coup on a mis la bécane devant la porte d'entrée de la boutique qui devait réparer le lendemain. Et le lendemain quand je suis arrivée, je leur ai dit, je me suis adressée tout de suite au gars en anglais, je leur ai dit que I have a big problem with my Suzuki. Donc il m'a regardé avec des grands yeux et puis quand je lui ai dit en anglais aussi que c'était probablement un problème de roulement avant, il a halluciné parce que bon, c'était effectivement ça, j'avais bien diagnostiqué et la réparation a été vite faite. Donc on a vite taillé la route. Hein.
Oui.
Pour rattraper le retard.
La réparation a été faite sous notre haute surveillance.
Oui, hein. Oui, on a vérifié que oui.
Donc après, on a redémarré, on a pris la route en direction de Puttgarden pour prendre le ferry vers le Danemark. Et donc, première traversée en ferry. Et là, c'était notre première fierté.
C'était la première fois que vous êtes allé...
Avec la bécane.
Ouais, super.
Ouais, donc on a fait des photos avant, pendant, après. On avait pas mal d'admirateurs. On a sanglé les bécanes dans le ferry. Donc voilà, super fiers. Alors que par la suite, c'est devenu de la routine. On avait toujours autant d'admirateurs, mais on signait plus d'autographes. C'était devenu facile. Donc voilà, pour ceux à qui ça ferait peur de mettre la bécane sur le ferry... Enfin, pour les mecs, on peut peut-être faire un truc plus facile.
Ouais, on va y penser.
Voilà, donc traversée du Danemark, bon, sans intérêt particulier, en tout cas de ce qu'on a vu. Une petite remarque quand même, parce que vous savez que la monnaie au Danemark, c'est la couronne danoise en fait. On pensait que c'était l'euro. Donc juste un conseil, ne pas se fier qu'à votre culture, parfois surestimée. Enseignez-vous sur la monnaie des pays que vous traversez. Parce qu'Edwige, elle pensait juste que le gars, il avait oublié de changer ses prix à la station au service. Bah, elle est blonde, hein. Et non, en fait, c'est parce que c'était en cours.
Tu trouvais le litre d'essence était très cher.
Non, mais c'est bizarre, ils n'ont pas changé d'affichage.
Donc voilà, on a traversé le Danemark et puis ensuite on s'acheminait vers le pont qui nous menait à la Suède.
C'est un pont. Super ce pont, ouais.
Magnifique, ouais, qui mesure environ 13 km
wow.
Et qui surplombe la mer. Et alors là, c'était un moment fabuleux, il faisait très beau, heureusement pour nous, et il y avait du vent. Et puis un moment magique quoi. On s'acheminait vers la Suède par un beau temps et bon, la traversée du pont, petite anecdote, coûte environ 26 € pour une moto hein. Le double pour une voiture, mais voilà, 26 € la traversée, donc on l'a bien apprécié et on l'a tellement apprécié que en fait, arrivé là-bas, on s'est posé, on a refait le plein d'essence. Bon, moi, ça m'arrivait assez souvent. Et puis, on est reparti. Et bah, moi, toujours derrière Edwige, puisque c'est Edwige qui a le GPS. Et j'avais confiance en elle, hein, jusqu'alors. Et puis...
Mais quand on est reparti, en fait, mon GPS m'a indiqué... Bah, j'avais le choix entre deux villes, mais bon, comme je ne connaissais pas du tout les villes, moi, j'ai suivi une ville qui nous indiquait de faire demi-tour. Mais je ne m'en suis pas rendu compte seulement quand on s'est retrouvé devant le pont. Mais dans l'autre sens.
Alors, mais voilà, ça se présente comme un péage d'autoroute. Hein. On ne peut pas dire, bah, on fait demi-tour, on s'en
c'est
va de l'autre côté.
Impossible.
Donc, alors... Edwige catastrophée, je ne vais pas repayer 26 €, puis 26 € pour repartir. Bon, donc on s'est adressé au péagiste,
oui. Hein,
si on peut dire comme ça.
Qui nous avait déjà repérés. Hein.
Qui nous avait déjà oui. repérés. Et puis, quand je lui ai expliqué qu'on était déjà passé de l'autre côté, il m'a dit oui, je vous ai vu. Il a relevé nos plaques d'immatriculation. Il nous a annoncé à la police, la douane, le péage, etc. Et puis, on a pu repartir par
des
petits chemins interdits
ouais.
À tous.
Aux usagers, en principe. Ouais.
Voilà. Mmh. C'est ça.
Ouais. Réservé au personnel.
Réservé au personnel.
Ouais, ouais,
donc on était déjà repérés. On n'était pas encore arrivé en Norvège, qu'on était repérés.
Donc là, vous étiez à
non,
combien
de kilomètres bah, ouh, je ne sais pas. Ah, on était loin.
Ah ouais, on était loin, ouais. On était loin. Voilà, là, on était vers Malmö.
La moto, c'est pas joué encore.
On était ouais, du côté de Malmö.
Non, mais moi, je roule.
Non, mais c'est génial parce que, en fait, là, on manque un petit peu de temps pour vous laisser vraiment nous raconter en détail tout ce que vous avez vécu. Moi, j'ai la chance, hein, parce que vous avez très bien préparé tout ça, j'ai la chance d'avoir le journal de votre voyage. Et il y a plein à y apprendre. Il y a beaucoup de choses. Là, c'est parce qu'on s'amuse et puis c'est rigolo comme tout. Mais lors de ce voyage, vous êtes enrichi en expérience. Expérience moto, expérience humaine aussi, avec les rencontres que vous avez faites.
Oui, là, effectivement, on n'a pas beaucoup le temps. Mais sinon, pour ceux qui veulent en savoir plus, on a préparé un show, mais qui est payant. Hein. Donc, traversée de la Suède. Alors, traversée de la Suède, moi, je vous le dis, hein, pour ceux qui préparaient un peu vite comme nous, moi, j'avais acheté toutes les cartes, mais bon, à force, ça fait beaucoup de cartes à transporter. Donc, je n'avais pas pris la carte de la Suède parce que je me suis dit, ouais, il y a à peu près 150 km. Ouais. On était bien d'accord toutes les deux sur la distance à parcourir. Et puis en fait, il y avait 400 km. Donc, on aurait mieux fait d'acheter une carte. La Suède, bah, ça a l'air d'être assez joli. Ça mérite le détour, même si nous, on n'a pas eu le temps de s'arrêter beaucoup. Là, on voit déjà des paysages très plats, beaucoup de lacs, des maisons en bois. On a eu la chance d'avoir du beau temps, encore une fois. Et puis, on est arrivé au camping superbe. Alors là, les campings dans les pays nordiques sont très bien équipés. C'est pour ça qu'on n'a pas pris la gazinière, rappelle-toi.
Oui, parce qu'il y a une salle commune où et tu peux cuisiner. Ouais. Bon. C'est bien fait.
Et seulement, on est arrivé. Alors, ça, il faut savoir, dans les pays nordiques, ils mangent très tôt. Hein. Donc, on s'est fait avoir 2-3 fois de suite où on allait manger vers 20h. Mais en général, on mange à 19h vraiment maximum. Quoi. Donc, le premier soir, on s'est retrouvé à manger Edwige un gâteau, puis moi des cacahuètes.
Et donc, vous continuez votre route.
On continue notre route. On arrive à Oslo. Oslo, alors tout de suite on arrive en Norvège, contraste très très important au niveau des paysages entre la Norvège et la Suède. Donc là on arrive dans des paysages montagneux avec des fjords, paysages
plein les yeux,
oui.
Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir plus fort de ce périple à deux?
Alors, bon, déjà, nous, on a essayé de faire quelque chose de... Bon, on s'est débrouillé avec peu de moyens. Hein, ça nous
ouais,
a coûté...
Oui, ça, c'est important. Hein, voilà. Le coût de revient, malgré le pont, tout ça...
Voilà, c'est ça. Malgré les péages, l'essence qui est assez chère, environ 2 euros le litre dans les pays nordiques. Ouais. On a fait camping et puis on s'est débrouillé avec nos soupes lyophilisées, nos babybel. Et...
Environ 1300 euros par personne.
1300 pour 15 jours.
Ouais. On va essayer de mettre maximum d'infos, de resituer en fait tout votre itinéraire, vos super plans, vos anecdotes aussi, si on peut, sur le forum,
on peut.
Pour que tout le monde puisse en profiter. Et on ne peut avoir que l'envie de partir, que et des idées de voyage, en fait, et pas se sentir freiné.
Après l'émission, il faudra donner des conseils à Christine, parce que dans 15 jours, elle veut partir en Norvège. Oui. Elle veut faire l'hivernale, en fait.
Oui, il y a une hivernale en Norvège.
Le Savalen Rally. C'est tout près du cercle polaire.
C'est à 300 km du nord. Km.
Donc, il faudra lui donner des conseils, mais c'est l'hiver. Voilà, l'émission se termine. Donc, merci d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Campus. Merci Patricia, merci Valérie, merci Edwige,
merci
Dominique. Alors, merci Laurent, Lural, hein. Merci Christine. Et attention, je rappelle que dimanche prochain, super émission, enfin pas super, émission Enduropale avec Arnaud Demester, David Hoquier et Vincent Cambier dans les studios ou au téléphone. Voilà, rendez-vous donc dimanche prochain, 11h, pour une nouvelle émission
au revoir
du magazine de la moto.
Bon dimanche à tous.